une de ce journal. Dans un message à l'occasion de la journée nationale de l'armée, le président iranien Hassan Rouhani a insisté sur le fait que l'armée et le CGRI connaissent professionnellement leur mission. Nouvelle phase des négociations entre l'Iran et les 4+1 à Vienne. Et puis le terroriste à l'origine de l'acte de sabotage contre le site nucléaire de Natanz a été identifié, Interpol sollicité. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran célèbre ce dimanche sa journée de l'armée en organisant des défilés limités impliquant uniquement du matériel militaire en raison de la pandémie de coronavirus. L'événement de cette année se concentre principalement sur le défilé de véhicules militaires et la présentation d'armes de fabrication nationale dans certaines bases de l'armée à travers le pays. En raison du COVID-19, les autorités ont décidé d'annuler l'EPA de mars à Téhéran. Divers types de drones, de chars, de batteries anti-aériennes, de systèmes de missiles avancés, différents types de systèmes de guerre électronique ont été exposés. L'Iran a toujours soutenu que sa puissance militaire était à des fins défensives. Dans un message à l'occasion de la Journée nationale de l'armée, le président Rouhani a insisté sur le fait que l'armée et le CGRI connaissent professionnellement leur mission, déclarant que la sécurité nationale de l'Iran dépend du maintien de son intégrité territoriale. Le président Rouhani a souligné: aujourd'hui, avec l'expérience de la guerre imposée et l'héritage de la sainte défense, les institutions militaires iraniennes, l'armée, le CGRI, connaissent leurs missions et leurs responsabilités plus professionnellement que jamais. Le président Rouhani a déclaré dans son message, à l'occasion du 29 Farvardin, soit le 18 avril, journée nationale de l'armée, je cite: chaque nation est fière de sa puissante armée et chaque armée est fière de sa grande nation. Les nations restent sans défense, sans armée, et les armées sont sans défense, sans leur peuple, et des gouvernements sans ces deux facteurs restent sans capitaux. Et dans une telle situation, ils ne servent que de barrières infranchissables les uns pour les autres. Sans aucun doute, la légitimité des armées réside dans leur patriotisme et leur loyauté à la sécurité nationale, à l'ordre, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Mais la relation des armées aux nations est plus stratégique que la relation des armées au gouvernement. Les gouvernements ont besoin des nations pour rester au pouvoir. Mais lorsqu'une nation n'est pas satisfaite d'un gouvernement et se détourne, ce sont les armées qui doivent choisir entre les nations et les gouvernements. Les armées possèdent des armes, mais leurs armes visent les ennemis des nations, pas les nations. Les armées font bien sûr partie administrativement des gouvernements et doivent donc obéir au gouvernement par la loi. C'est un principe démocratique, le soldat obéit au commandant. Mais il est également clair que les armées doivent soutenir un gouvernement qui n'a pas trahi son peuple, ajoutait le président Rouhani. Il y a 43 ans, lorsque la nation iranienne s'est détournée de la monarchie et a fait une révolution contre la dictature, le régime Pahlavi s'est tourné vers l'armée dans une illusion pour sa survie et lui a demandé un coup d'État contre la révolution, autrement dit contre la nation. Mais l'armée a fait son choix final et s'est rangée du côté de la nation, car l'armée en Iran fait finalement partie de l'océan de la nation, d'où la différence entre l'armée iranienne et les autres armées dans la région, a conclu le chef du gouvernement iranien. Les négociations entre l'Iran et les 4+1 sur le PGAC et l'accord nucléaire se poursuivent à Vienne aujourd'hui sous différents formats et niveaux et les groupes d'experts continuent de débattre des deux sujets de la levée des sanctions et des questions nucléaires. Le 17 avril, en plus de la 18e réunion de la commission mixte GCPOA, des réunions bilatérales et multilatérales ont eu lieu entre la délégation iranienne et les représentants des 5. Au cours des négociations, 3 réunions ont eu lieu entre Abbas Araghchi, chef de la délégation iranienne, et Henrik Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à 60% de pureté. L'agence a déclaré dans un communiqué que 2 cascades de centrifugeuses sur le site nucléaire de Natanz ont commencé le processus d'enrichissement à 60%. L'Iran a lancé le processus mercredi, affirmant qu'un enrichissement à 20% de pureté était également en cours sur le site. Cette décision fait suite à un acte de sabotage la semaine dernière contre l'installation de Natanz, qualifiée par Téhéran de terrorisme nucléaire. Le négociateur en chef de l'Iran à Vienne, Abbas Araghchi, a déclaré que la mesure était conforme aux engagements de son pays au titre de l'accord nucléaire de 2015. Enfin, le terroriste impliquant dans l'acte de sabotage visant le site nucléaire de Natanz a été identifié, Interpol sollicité. Les forces ministères iraniens du renseignement ont identifié l'auteur de l'incident qui a eu lieu dimanche dernier dans une partie du réseau de distribution d'électricité de l'installation de Shahid Ahmadi Roshan à Natanz. Selon la source, un certain Reza Karimi, accusé de sabotage à Natanz, qui s'est enfui à l'étranger, a été identifié comme l'auteur de l'incident de Natanz. Le dimanche 11 avril, dans la matinée, la nouvelle d'une opération de sabotage dans le complexe d'enrichissement de Natanz a été publiée. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Afghanistan. De quoi fuient les États-Unis? Biden admet sa défaite et lève les drapeaux de la reddition en Afghanistan. Comment le peuple afghan a-t-il gagné contre l'Amérique dans sa plus longue guerre? S'interroge Rayal Yaoum. Le rédacteur en chef de Rayal Yaoum, Abdel Bari Atwan, a écrit dans un article que le président américain a mis fin à 20 ans de guerre en Afghanistan et a décidé de retirer toutes ses forces avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre et admettre sa défaite dans la guerre. Enfin, après 20 ans de guerre en Afghanistan, le président américain Joe Biden a décidé de hisser les drapeaux blancs de la reddition teintés par le sang de plus de 2400 soldats morts et 21 000 blessés et de retirer toutes les forces de son pays, à savoir 3500 soldats, avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, et de reconnaître officiellement la défaite, souligne Atwan. Selon le journal en langue arabe, ce grand acquis, qui n'est pas moins important que la défaite de l'Amérique au Vietnam, n'aurait pas été possible sans la patience des Afghans et leur résistance continue à l'occupation américaine et le soutien des voisins, en particulier du Pakistan, à leur fournir des armes et de l'argent. La guerre en Afghanistan, qui a été la plus longue guerre des États-Unis et qui a coûté aux contribuables américains plus de 2 000 milliards de dollars, nous rappelle le retrait des Américains du Sud-Vietnam pour s'échapper et l'entrée des forces Viet Cong dans la capitale Saigon, soulevant le signe de la victoire et ses drapeaux, et nous ne sommes pas exclus de la répétition de la même scène après une autre retrait, le retrait des forces de l'OTAN, y compris les forces américaines, en septembre prochain, l'entrée des forces talibans dans la capitale Kaboul et l'annonce de la création de l'émirat islamique d'Afghanistan, comme le confirment la plupart des indicateurs, sinon tous, précise l'article. La phrase la plus vraie que Biden a prononcée dans son discours de mercredi soir est celle dans laquelle il a déclaré « Je suis le quatrième président américain à vivre cette guerre et je ne la céderai pas au cinquième président qui recevra le pouvoir après moi. » Mais il n'a pas dit qu'il avait réalisé ce que les présidents précédents n'avaient pas compris, à savoir l'impossibilité de conquérir la volonté des peuples, de poursuivre leurs occupations par la force d'avions, de missiles et de mercenaires, de commettre des massacres contre des Afghans innocents, peut-on lire toujours dans l'article d'Atwan. Ce qui est certain, c'est que l'achèvement du retrait américain à l'OTAN en septembre prochain créera un vide qui sera comblé par une guerre civile sanglante, alors que le gouvernement du président Ashraf Ghani tentera de lutter pour survivre au pouvoir en s'appuyant sur 300 000 Afghans et soldats entraînés et armés par l'OTAN au cours des 20 dernières années. Une guerre qui ne se prolongera peut-être pas et les forces talibanes, qui contrôlent pratiquement 70% du territoire afghan, entreront dans la capitale Kaboul, comme ils y sont rentrés, pour la première fois en automne 1996, en levant leur drapeau sur le palais présidentiel, nous rappelle Atwan. L'arrogance américaine a reçu un coup de poing fatal en Afghanistan, tout comme des coups de poing similaires en Irak, en Syrie et au Yémen, et bientôt en Palestine occupée. Une nouvelle mondialisation qui renversera Washington et son dollar du trône du monde. Raya Liam souligne ensuite que l'Afghanistan et le Yémen sont deux pays faciles à occuper, mais il est impossible d'y rester et il n'y a pas moyen de s'en sortir qu'avec une défaite humiliante, non pas à cause de leur difficile nature géographique montagneuse, mais aussi en raison de la patience de leur peuple et de la forte volonté de résistance, d'adhésion à la dignité et à la fierté des âmes. Et nous vous renvoyons aux livres d'histoire et aux échecs des Britanniques et des Ottomans dans les vallées et les montagnes des deux pays. D'après Abdel Bari Atwan, l'Amérique a vaincu les Russes en Afghanistan en recrutant des extrémistes et a pris sa revanche sur sa défaite au Vietnam et par cela il a frappé le plus gros clou dans le cercueil de l'Empire soviétique et tente de répéter le même scénario en Chine maintenant. Mais il ne réussira pas, car le monde a changé et l'ennemi n'est plus l'ancien ennemi et les outils américains sont vieux, rouillés et inefficaces. Nous espérons que certains Arabes apprendront que le prix de la résistance est beaucoup moins cher que celui de la reddition à l'Amérique et à ses complots. Le temps des défaites en série des États-Unis a commencé. Biden supplie le président Vladimir Poutine de le rencontrer, retirant ses navires de guerre de la mer Noire, offrant à l'Iran des concessions inimaginables, dont les pourparlers de Vienne, conclut l'article. Vous pouvez trouver cet article sur notre site french.presstv.com. Merci de votre attention et de votre fidélité.